97 000 livres. 97 000, c'est le nombre de titres parus en France en 2020, selon le chiffre du Syndicat National de l'Édition, un monde de l'édition toujours à la recherche de coûts et d'astuces marketing pour se démarquer, évidemment, au mieux de 97 000. C'est pas facile. Secteur ultra concurrentiel dans lequel il est de plus en plus difficile de se faire un nom. Et les animatrices et animateurs télé sont sollicités, pour ne pas dire dragués, par les éditeurs pour apporter leur notoriété au service du livre, évidemment en cohérence avec le propos éditorial, ce qui est le cas de nos deux invités. Bonjour Julien Drieux.
Bonjour Philippe Vandel.
Animatrice télé, le public vous connaît pour les Carnets de Julie sur France 3. Avant cela, il y a eu 7 à vous, Fourchette et sac à dos sur France 5. Vous publiez A comme astuce, mon abécédaire de la cuisine, nouveau livre de recettes chez Robert Laffont. Avec vous, avec nous, Raphaël de Casabianca, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes l'animateur de Rendez-vous en Terre Inconnue et Nos Terres Inconnues sur France 2. Et vous publiez le guide de voyage Destination Pétaouchnok chez Hachette. Vous connaissiez tous les deux?
On s'était croisés il y a quelques années, avec un ami commun.
D'accord.
Absolument, Tristan Lecomte, le fondateur d'Alter Echo.
Voilà.
Julien Drieux, vous êtes presque une routière déjà de l'édition du livre de cuisine. Combien de livres au compteur, vous le savez ou pas?
Non, très honnêtement, vous allez peut-être me le dire.
Nous, on a regardé et votre fiche en recense 22.
Ouais, c'est ça.
Question, comment renouveler le genre après une vingtaine d'ouvrages?
Justement, en faisant pas seulement un livre de recettes, mais un livre qui recense tous les petits raccourcis en cuisine qui permettent de pas se prendre la tête, de simplifier la vie, d'améliorer un peu la qualité des plats aussi. Mmh. Et je me suis rendu compte que finalement, c'est peut-être ça qui fait la différence en cuisine plutôt que la formule un peu magique et entérinée de la recette. Donc j'ai mélangé les deux parce qu'on attend toujours la recette, l'application finalement de ces conseils-là. Mais il y a plein de petits trucs auxquels finalement on ne pense pas souvent quand on cuisine un peu automatiquement comme moi avec l'expérience. Et là j'ai essayé de faire ce travail d'introspection.
Raphaël de Casabianca, c'est la même question. Combien de livres de votre côté?
Alors moi c'est le premier. Voilà, moi je suis un novice, voilà, je viens d'arriver, je viens de débarquer, j'ai tout à réinventer avec moi-même. Non, je n'ai fait qu'un livre et c'est celui-là, c'est Pétaouchnok.
Alors on n'a jamais deux fois la chance de faire une première impression. Comment ça s'est passé? Comment se passe le contact avec un éditeur? Comment est née l'histoire de ce premier livre pour vous?
Alors Pétaouchnok, c'est avant tout un média que j'ai lancé en plein confinement avec Antoine Delaplace pour parler du voyage de façon optimiste et engagée. On s'est lancé sur Instagram il y a un an, en octobre, on est 170 000 maintenant. Et puis on a décidé de se dire... Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ait du sens et qui corresponde à nos valeurs? Et donc, on a rencontré Hachette, c'est plutôt nous qui sommes allés leur proposer, en disant, on a des photographes extraordinaires du monde entier et on aimerait bien faire un livre pour le Secours Populaire, c'est-à-dire tous les droits d'auteur, c'est une chose, mais aussi tous les bénéfices pour le Secours Populaire. Et quand on va voir un éditeur et qu'on lui dit, bah, je veux bien donner mes droits d'auteur au Secours Populaire, il dit, bah, ça c'est génial, mais quand on lui dit... tous vos bénéfices pour le Secours Populaire, ils disent « Attendez, il faut peut-être qu'on en discute ». Donc ils en ont discuté à la direction et ils ont trouvé le projet super, ça justement c'est assez fédérateur.
Attendez, c'est passionnant cette histoire.
Oui.
Qu'est-ce qui pouvait les gêner dans le fait que tous les droits d'auteur soient reversés?
Parce que c'est une société qui doit faire de l'argent, c'est évident, donc comme n'importe qui...
Oui, mais il y a un pourcentage. C'était, vous vouliez que tous les vos bénéfices. Droits d'auteur à vous, à tous les bénéfices, y compris les bénéfices de l'éditeur.
Exactement. Et ça se fait jamais. Et,
ah bah,
et
Hachette, jamais entendu.
Et Hachette, ils disent, écoutez, tu serais Julien Drieux, Cyril Lignac, tu aurais fait 30 livres avant. Pétaouchnok, c'est une belle marque, mais c'est votre premier livre, donc faut y aller mollo. Mais je dis, mais attendez, non, faut y aller, on les a convaincus. Et ce qui est génial, c'est que c'est fédérateur. Les photographes qui sont dans ce livre, c'est 40 photographes qui viennent du Soudan, d'Amérique du Sud, des États-Unis, des photographes incroyables qui ont presque 1 million de followers sur
photo
Instagram.
Absolument sublime.
Vraiment.
Pardon de dire ça, mais si chacun en fait une, évidemment que sa photo est belle.
Oui, non, ils en ont fait des milliers, sauf qu'on en a choisi une
c'est
à chaque fois.
C'est ce que je voulais dire.
Mais et surtout, c'est qu'ils ont accepté pour le Secours Populaire de céder aussi leurs droits d'auteur. Donc en fait, les photographes ont aussi participé à ce livre en disant « Ok, tout le monde redonne pour que les enfants partent en vacances. » C'est pour les campagnes vacances du Secours Populaire.
Ah oui, donc c'est un livre de voyage aussi, pas seulement de photos.
Pas qu'un guide, il y a des impressions, il y a des itinéraires, il y a des belles photos. Et surtout, c'était de dire, moi, dans les interviews, on me demandait, parce qu'il y a Nos Terres Inconnues et Rendez-vous Inconnus, on me disait « Mais c'est pas trop dur de pas voyager. » Je disais « Non, moi j'ai de la chance, j'ai beaucoup voyagé, mais il y en a. » Pour qui ne pas voyager, c'est une réalité qui dure toute la vie. Et donc c'est ce que je voulais refaire, la réciprocité, c'est ce que je voulais refaire avec ce bouquin, c'est-à-dire il peut vous inspirer, vous donner envie de partir, mais surtout il va concrètement aider les enfants à partir en voyage.
D'un mot avant que je donne la parole à Julien Drieux, vous parlez de Pétaouchnok comme si tout le monde connaissait le site Instagram. Pour qui ne le connaît pas, c'est quoi Pétaouchnok? Déjà, c'est un nom fixe. Ça existe Pétaouchnok?
Alors,
il y a un bled qui s'appelle Pétaouchnok quelque part dans le monde.
C'est ça qui vient. Chacun a son sien. Exactement. C'est un nom imaginaire. Mm. C'est inaccessible, lointain. C'est ça. On se dit, et tout le monde a son Pétaouchnok. Ça peut être au bout de la Creuse, comme ça peut être au fin fond du Japon.
Voilà.
Ça n'existe pas. Mais tout le monde peut s'y retrouver parce que justement, c'est un lieu imaginaire et créatif.
Il y a quoi sur votre site?
Sur notre site, il y a des idées voyage responsables. On partage des belles photos. On propose justement des itinéraires comme là, on a proposé récemment aller faire Munich, Venise à vélo, traverser l'Andalousie. C'est plutôt outdoor, des itinéraires, des circuits en Europe. Et le but, c'est de dire, la prochaine étape avec Peter Schnock, c'est de dire qu'est-ce qu'on rend au voyage, qu'est-ce qu'on donne au voyage quand on voyage. C'est-à-dire que souvent, on consomme un pays, mais qu'est-ce qu'on fait pour lui redonner du temps ? Et je crois beaucoup à l'engagement, au fait de rencontrer du monde, à être dans des lieux associatifs et de pouvoir donner du sens à la découverte.
Je me tourne vers Julien Drieux, en dédicace de votre livre. Vous écrivez ceci à Claude Lebet, éditeur, critique et ami, le premier à croire qu'une jeune fille ignorant tout de la cuisine pourrait peut-être un jour guider les autres. Que vous a-t-il appris en tant qu'éditeur pour faire un bon livre de cuisine, sachant qu'au départ, vous n'y connaissiez rien ?
Non, j'y connaissais rien. Je crois que le premier conseil qu'il m'ait donné, c'était surtout d'écrire comme je le pense et comme je cuisine, c'est-à-dire avec des termes du quotidien et pas cette terminologie culinaire un peu inaccessible à beaucoup. Et ce qui a fait que le premier livre que j'ai publié grâce à lui, chez Robert Laffont d'ailleurs, La boucle est bouclée, chez Albin Michel, était un livre qui a très bien marché parce que justement, c'était un des premiers livres qui faisait fi de toute cette rhétorique du chef ou même éventuellement de la grand-mère qui avait passé sa vie en cuisine. Moi, j'étais ni l'un ni l'autre. J'avais pas cet atavisme culinaire traditionnel dont beaucoup peuvent se revendiquer. J'avais pas non plus une formation académique de chef professionnel. Donc j'étais entre les deux et peut-être c'est cette troisième voie que j'ai malgré moi ouverte en disant attendez, on n'y connaît rien. Ok, on n'a pas la fameuse grand-mère qui nous a fait une bonne cuisine toute notre enfance. Eh ben allons-y, c'est pas grave, on se lance et puis on verra bien. Et en fait, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est comme ça que j'ai construit ma cuisine, ce qui a un peu peut-être déculpabilisé ceux qui ont lu le livre.
Et dans quelle mesure vous impliquez dans l'édition du livre ?
Je m'implique dans l'édition ?
Vous faites faire quoi par d'autres gens ? C'est pas vous qui faites les photos, par exemple ?
Alors non, là, en l'occurrence...
Normalement, il y a des photographes culinaires, c'est un métier en soi.
Oui, la plupart du temps, oui. Mais là, il se trouve que c'est vraiment dans ma cuisine, avec ce sont les plats que j'ai faits, qui ont été shootés par Jean-François Mallet, qui est l'auteur de Simplissime, qui est un vieux copain. Et on a fait, je sais pas, on a shooté peut-être 200 plats ou 200 photos en 3 jours. Donc ça a été très, très, très intense. Mais c'est ce que je voulais. Je voulais pas que ce soit posé, je voulais pas que ce soit apprêté, je voulais pas de styliste. On cuisinait comme ça, entre potes, et puis de temps en temps, ils faisaient une photo.
Qu'est-ce que vous appelez une styliste ? Une styliste pour vos vêtements ou une styliste pour les plats ?
Non, il y a longtemps.
Mais il faut expliquer ça aux gens qui ne savent pas.
Oui, styliste culinaire, monsieur, absolument. Oui, il y a des gens qui sont censés mettre en valeur un plat, c'est pas si évident. On en a tous fait l'expérience quand on cuisine pour des copains, on prépare un dîner, ça peut être bon, mais c'est pas toujours joli. Donc il y a des gens qui réalisent une assiette, qui vont mettre le bon tissu à côté, le bon couvert, de façon à ce que ce soit joli. Moi, je voulais que ce soit un peu brut.
On a un point commun dans le livre, c'est que Jean-François Mallet nous donne une recette à l'intérieur sur la street food en Thaïlande, parce qu'il adore la street food, l'auteur de Simplissime nous a fait une petite
grande collaboration.
Et je précise, pour donner de l'eau à votre moulin, Julien Drieux, c'est que si on se met à manger les recettes qu'on voit photographiées, elles sont immangeables, parce que l'huile qu'ils mettent sur les photos, pas dans votre livre, en général, dans le livre de cuisine,
quand
il est cuisine, je vais donner juste un petit truc comme ça qui m'a toujours fait rigoler, c'est les photos de glace, c'est que c'est fait que de la purée. Parce que sinon,
parce
une fois qu'on met les projecteurs,
les glaces fondent. Ouais.
Donc, les photos que vous voyez très très belles, je vous dis juste ça, sont immangeables.
Mais Philippe, vous allez pouvoir goûter les plats du livre, puisque je vous ai apporté une part de cheesecake, qui est dans le livre. Donc, vous n'aurez pas le choix.
Et après, les gens vont dire, les journalistes sont achetés. Culture Média continue, c'est un plaisir, à tout de suite. En compagnie de Raphaël de Casabianca, il publie Destination Peter Schnock, c'est sous-titré Des idées de voyage qui changent tout. C'est un livre avec de très 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 belles photos. Acomastus, c'est le livre de Julien Drieux, photographie de Jean-François Mallet. Mon abécédaire de la cuisine, c'est chez Robert Laffont. Question Julien Drieux, comment vous est venue l'idée de la photo de couverture? Vous dites tout est normal, je suis une femme ordinaire, une marmite à la main avec un couvercle sur la tête.
Alors sachez pour les coulisses de la photo que c'est vraiment la cocotte de ma grand-mère.
D'accord.
Peut-être même de mon arrière-grand-mère.
Voilà.
Donc déjà, ça a une valeur en soi, une valeur patrimoniale. Et puis, j'avais juste envie de faire un truc un peu décalé parce que c'est vrai que sinon, toutes les photos se ressemblent. Et que je voulais me mettre en boîte, enfin en cocotte. La nouvelle cocotte, quoi, la cocotte du 21e siècle.
Et Julien Drieux, dans votre livre, il y a un tas d'astuces et on avait une question. Quelle est la taille de votre congélateur ?
J'en ai 3. Voilà.
Ah bon ?
Oui.
Parce que là, comme je vous dis, il y a le congélateur de Julien Drieux.
Mais ça ne dit pas les tailles du congélateur. Est-ce que c'est des maisons entières?
Non, mais c'est vrai que j'aime bien pouvoir dégainer en cas de...
Il faut avoir ça sous la main.
Alors, il faut avoir du gingembre pelé et haché, des bâtons de citronnelle émincés, du bouillon de poule, du bouillon de bœuf, du fumet de poisson, des plateaux de fromage. Non, pas des plateaux de fromage, un demi-pied de veau. Alors, c'est pas possible.
Ouais. Non, mais alors, par exemple, alors, le demi-pied de veau. Je prends l'exemple du demi-pied. C'est quand même un sujet très important.
De fromage, des herbes, de la baguette, du beurre,
mais
du coke d'agrumes.
Mais ce ne sont que
de
des restes.
Tarte.
Ce ne sont que des restes, c'est pour ne pas jeter, justement. Regardez, vous faites un dîner avec des copains et puis vous reste forcément la moitié du plateau de fromage, vous les emballez dans du film et vous mettez tout ça au congélateur, vous les ressortez un par un. Mais oui.
Et pourquoi on les garde pas dans le réfrigérateur normal?
Parce qu'on va pas forcément les manger dans la semaine. Et pareil pour le pain et qu'est-ce que vous m'avez cité? Le pied de veau.
Ouais,
j'adore le cassoulet.
Ouais.
Je confesse, j'adore le cassoulet.
La prochaine couve, c'est dans un congélo quand même.
Et non, c'est le pied de veau, c'était pas pour le cassoulet, c'est la couane. Mais ouais. Voilà, le pied de veau, ça sert à épaissir une sauce, même dans le bœuf bourguignon. Moi, je mets du pied de veau.
J'ai l'impression que Philippe cuisine pas trop.
Si, je cuisine, non. mais j'ai pas votre degré. Mais j'ai pas votre degré d'organisation. Julie, il y a une personne qui adorait vos astuces. Elle s'appelait Jeanne Moreau. Vous l'avez reçue dans Europe 1. C'est dans votre émission Droit dans le buffet des stars. On était en 2007. Attention. Archive.
Jeanne, mademoiselle Moreau est avec nous ce dimanche pour parler d'une passion pas très commune pour une comédienne en tout cas, la cuisine. Merci d'être avec nous, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation.
Merci, non bonjour, moi je vous admire depuis longtemps, je vous ai vu à la télévision, j'ai vu vos séries quand vous avez fait le tour du monde.
C'est vrai.
Et j'ai trouvé ça fascinant, j'aime beaucoup Cuisine TV et j'aime beaucoup aussi les émissions très brèves que vous donnez, des trucs pour faire une purée ou pour préparer des petits beignets ou des choses comme ça.
Jeanne Moreau et la purée.
Je suis très émue de l'entendre. Oui, alors d'autant plus qu'à un moment, je lui demandais ses goûts et notamment en matière de restaurant. Elle m'a dit « Oh, j'ai découvert quelque chose de formidable la semaine dernière. Je revenais du Festival de Cannes en voiture et je me suis arrêtée. » Alors c'était au bord de l'autoroute, un restaurant avec un toit de chaume. Elle me décrit un campanile. Elle me dit « C'était formidable !» Et elle me fait 5 minutes sur le campanile, hyper sincère. Ouais. Et alors campanile lui a envoyé, je pense, des caisses de champagne.
Pardonnez-moi, je pense que c'était courte paille.
Courte paille. Mais je les fréquente pas souvent. Enfin voilà. C'est la même idée.
Et purée et beignets qu'on retrouve dans votre livre. Ah, comme astuce, on a vérifié, les beignets sont en page 24 et la purée, c'est en page 238.
Il y en a pour tous les goûts.
D'autres projets en radio, en télévision?
Oui, en télé, je continue les carnels. On part en tournage à Bayonne, puis dans une abbaye pour l'émission de Noël. Et une nouvelle émission à partir du printemps sur un sujet pas très éloigné de la cuisine, mais qui ne sera pas la cuisine quand même.
Allez-y.
Le jardin. Le jardin potager.
Et c'est vous qui jardinez ?
Je vais apprendre.
D'accord.
Un peu comme pour la cuisine, j'ai jamais caché que je n'y connaissais rien au début. Là, j'y connais pas grand-chose non plus, même si j'ai passé beaucoup de temps dans les potagers de ceux qui connaissent. Et là, je vais apprendre à cultiver mes propres légumes parce que ça me paraît essentiel. Après le confinement, on s'est tous rendu compte qu'on était un peu dépendants et que cette autonomie alimentaire, elle était essentielle.
On a tous fait un petit potager.
Voilà, ouais. et que c'est un vrai sujet.
Et puis on a vu le printemps éclater, tout le monde l'a vraiment vécu. Chose que souvent on n'est pas attentif parce qu'on fait plein de choses et là d'un coup on a eu ce temps de
Et quand on a de jeunes enfants comme Raphaël et moi, c'est important de pouvoir faire ça en famille, de leur transmettre l'idée de cette petite graine qui va permettre de nous nourrir.
Et c'est au printemps, sur quelle chaîne ?
Et c'est au printemps. Oh, bah, sur France 3, on ne change pas une équipe qui gagne, mais peut-être que ça bougera.
D'accord, ils vont être contents, les gens de France 3, de l'apprendre. Raphaël de Casabianca,
avec leur accord.
Dans Nos Terres Inconnues, avec Amir, vous étiez dans le Jura. L'émission a bien marché, vous connaissez les chiffres ?
L'émission a bien marché, il y a eu 3,5 millions de téléspectateurs, donc c'est super. Et puis au-delà de ça, c'est qu'on a pu mettre à 20h50 la lumière sur des hommes et des femmes extrêmement généreux qui vivent dans le Jura avec ses maisons dispersées, avec cette solidarité et avec Amir qui s'est transformé, qui était sans portable, qui était un peu stressé, qui avait peur du vide tout simplement. Mmh. La première soirée, il sait pas quoi faire, il est complètement perdu. Et puis au bout d'une semaine, on sent qu'il prend le temps d'apprécier. Donc il entre dans un rapport au temps, ce temps long, vraiment, et qui est aussi le temps de la rencontre. Donc, très heureux, 3 millions, et puis 15 en part d'audience, pour être plus précis. Ça progresse, donc oui, je suis très heureux.
Vous avez posté, Raphaël de Casabianca, il y a un mois sur Twitter, une photo de vous avec le rappeur Oli, de Big Flo et Oli. Ça sera la prochaine destination, j'imagine. Ce sera où ?
Bon, on en parlera quand on aura le temps d'en parler, mais pour l'instant, on n'en parle pas.
Si vous postez une photo, c'est
sur le
doute...
tarmac, mais ouais. On ne sait pas où. Alors, il y a des gens qui ne sont pas bêtes, ça veut dire que dans le sens où ils ont fait une petite enquête en se disant, mais tiens, c'est tel avion qui part à telle heure, à tel endroit. Non, on en parlera, mais en tout cas, c'était là aussi, j'en reviens, et c'était assez bouleversant, et j'ai hâte de le partager avec Oli Kass, qui est le plus jeune invité dans Rendez-vous en Terre Inconnue, 25 ans, mais qui est une personnalité... assez étonnante.
D'accord.
Et sans son frère.
Voilà. Et vous êtes aussi parti en Corse.
Récemment.
Ouais. Et on le verra quand ?
Bientôt.
Vous pouvez pas dire avec qui ?
Non, pas encore. Mais tout ça, on va en parler et voilà.
Julie, alors, les droits d'auteur, c'est pour vous.
Oui, oui.
Contrairement à Raphaël
Casablanca. Ah là, tout d'un coup.
Non, mais je ne veux pas te mettre la pression du tout.
Non, je vais vous dire pourquoi. Mais on peut se sentir bien avec cette question parce que vous êtes la marraine de l'Enfant Bleu.
Oui,
c'est association
vrai.
Qui vous est chère. C'est dû à l'engagement de votre mère en faveur des enfants maltraités. Comment on peut aider cette association et comment l'aidez-vous vous-même ?
Alors, on peut l'aider déjà en étant attentif à ce qui se passe autour de nous, en faisant partie des lanceurs d'alerte quand il faut. Il suffit d'un témoignage, il suffit d'un bruit, il suffit pour comprendre que des enfants peuvent être menacés dans leur propre foyer, puisque 85% des enfants qui sont agressés physiquement, sexuellement, le sont par leur propre famille. Donc la menace vient de là. Et puis moi, c'est vrai que j'ai... un sujet qui m'est cher, qui est l'idée d'intégrer à l'école, de faire en sorte qu'à l'école, on puisse avoir des psychologues qui puissent venir pour faire témoigner les enfants, pour libérer cette fameuse parole, parce que je crois que l'école est vraiment le lieu propice à ça. Donc il y a aujourd'hui déjà, c'est une démarche qui est faite, mais qui n'est pas tout à fait officielle, c'est vraiment à la demande des directeurs d'établissement. Donc si les directeurs d'établissement nous entendent, qu'ils fassent venir l'équipe de l'Enfant Bleu, qui est adapté justement à cette rencontre-là pour
et
tous
vous
les
vous
âges.
Et vous déplacez.
Et on se déplace, ils se déplacent. Et c'est un lien avec les enfants qui est essentiel dans la volonté de les faire témoigner.
Et vous aurez peut-être même la chance qu'elle amène des choses qu'elle a récupérées dans son congélateur. Merci beaucoup, Julie Andrieux. A comme astuce, c'est disponible dès demain chez Robert Laffont. Et j'ajoute que vous serez présente ce week-end au salon Made in France et vous serez l'invité de notre ami Laurent Mariotte samedi dans la table des bons vivants. Raphaël de Casabianca,
absolument.
Destination Pétaouchnok, c'est ce livre disponible chez Hachette et on vous retrouve bientôt dans Rendez-vous en Terre Inconnue. Mais il dit soit avec qui il part, soit il part, mais jamais les deux en même temps. Et il a raison. Merci d'avoir été tous les deux avec
Merci
nous
Philippe.
En direct. Dans